Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Aujourd'hui, pour être performante, une entreprise européenne ne doit pas seulement penser en termes de critères financiers. Son impact social et écologique compte de plus en plus et ce sera encore plus vrai à l'avenir. En effet, l'Europe s'apprête à revoir dans quelques jours sa directive sur l'évaluation des politiques environnementales et sociales des entreprises. Demain, pour comparer différentes sociétés, on regardera, par exemple, si elles polluent ou comment elles traitent leurs déchets. Cette question de la pollution devient de plus en plus sensible jusqu'en Sibérie. Le 25 mars dernier, une réunion anodine d'un comité scientifique a mis en évidence une importante pollution de l'air dans plusieurs grandes villes de Sibérie. Un rapport aussitôt enterré par peur des répercussions politiques. Nous sommes en ligne avec notre correspondant Jean Casset. Bonjour Jean.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
La pollution en Sibérie, c'est un sujet tellement sensible qu'il paraissait promis à un enterrement de première classe.
Eh bien, c'est un classement de la qualité environnementale dans les grandes villes de Russie. Et de ce classement, il ressort que plus des trois quarts des villes considérées comme polluées ou très polluées se trouvent dans la région sibérienne. 23 villes de Sibérie sont concernées et par exemple la quasi-totalité, 99% de la population, de la région de Taïmyr où se trouve la ville de Norilsk. Selon les régions, le type de contamination varie, cela va des métaux lourds aux nitrates en passant par des éléments cancérigènes et dans pratiquement tous les cas, des cours d'eau presque entièrement contaminés.
Jean, est-ce que la situation écologique est si mauvaise que ça en Russie ?
Oui, c'est une situation assez ancienne qui est liée à l'industrialisation massive de l'époque soviétique, mais dont les Russes en fait ne prennent conscience que très récemment. Dans l'imaginaire collectif russe, la Sibérie, c'est le poumon écologique du pays, un espace vierge, immense, inépuisable, trop vaste pour être réellement pollué par l'homme. Et pourtant, depuis quelques années, les catastrophes écologiques se succèdent dans la région, des millions d'hectares de forêts partent en fumée tous les étés, plusieurs déversements de gasoil dans les rivières, une marée noire sur les plages d'Extrême-Orient. Cela devient un problème récurrent et le public russe prend conscience de la fragilité de la Sibérie.
Jean, s'il y a déjà eu plusieurs affaires du même genre, pourquoi est-ce qu'il fallait taire ce rapport sur la qualité de l'air ? Est-ce que le sujet de l'écologie est tabou en Russie ?
En fait, pas vraiment. Plus que de la censure, c'est un exemple typique d'auto-censure. On s'imagine que les autorités voudraient voir ce rapport étouffé et on prend l'initiative de le faire. Le fait est, cela dit, que l'écologie, c'est une matière inflammable en Russie. Tous ces scandales que j'évoquais ont déjà provoqué de grandes manifestations dans les régions affectées. Et surtout, ce sont des causes qui mobilisent la population, et cela bien au-delà des habituels milieux d'opposition. Cela catalyse le mécontentement, et le gouvernement russe veut absolument éviter cela. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que souvent, ces manifestations écologistes, qui sont toujours très ponctuelles sur des sujets très concrets, eh bien, elles obtiennent gain de cause auprès des autorités, tant qu'elles ne sont pas politisées, tant que les autorités n'y voient pas l'opposition anti-Poutine à la manœuvre, et à ce moment-là, eh bien, il n'y a plus de dialogue possible.
Jean Casset, le correspondant d'Accent d'Europe sur RFI. Chaque année, la Serbie produit environ 100 000 tonnes de déchets toxiques, mais le pays ne dispose de quasiment aucun moyen pour les retraiter et les stocks de ces déchets dangereux s'accumulent depuis des décennies dans des conditions souvent douteuses. Les déchets toxiques, une bombe écologique à retardement pour la Serbie, c'est un reportage de Simon Rico.
Des dizaines de fûts métalliques rouillés s'entassent dans cet entrepôt délabré des faubourgs de Niš, la capitale économique du sud de la Serbie. Dessus, on peut lire « poison, gaz inflammable » avec d'inquiétants pictogrammes, tête de mort et incendie. Cela fait au moins 20 ans que ces déchets dangereux pourrissent ici sans aucune protection. Une nouvelle usine a ouvert juste à côté et des habitations se trouvent à peine à 100 mètres de là. C'est ici que vit la famille de Dejan.
J'ai peur que ce soit un nouveau petit Beyrouth, ici dans notre quartier à Trozarina à Niš. Il y a beaucoup de déchets chimiques toxiques qui peuvent exploser à tout moment et je ne veux pas que mes proches meurent. Les gens d'ici sont inconscients. Ils sont trop occupés à essayer de trouver les moyens de survivre pour réaliser à quel point tout ça est dangereux.
Des dépôts illégaux comme celui-ci, la Serbie en comptait des centaines sur l'ensemble de son territoire, soit au total des dizaines de milliers de tonnes de déchets dangereux stockés sans aucune norme de sécurité, un nombre qui augmente chaque année. Faute de pouvoir les retraiter correctement, de nombreux opérateurs s'en débarrassent en effet comme ils le peuvent. Depuis le début des années 2000, la professeure Christina Sarapina alerte les différents gouvernements serbes sur les risques de ces déchets dangereux.
Ici, les gens ne comprennent pas à quel point ce sujet des déchets toxiques est important et qu'il faut le gérer en respectant des règles bien particulières. Pour s'en débarrasser, il est nécessaire de suivre ces procédures à la lettre. S'il n'y a pas de gestion correcte, s'il n'y a pas de contrôle, il y aura des problèmes de pollution et cela influera aussi sur la santé des gens. Parce que la pollution, c'est un problème sanitaire et pas seulement environnemental.
Ces dernières années, la découverte d'immenses dépôts illégaux a fait à plusieurs reprises les gros titres des médias en Serbie. Les autorités ont promis d'agir, mais sans débloquer de nouveaux moyens financiers. À peine une quinzaine d'inspecteurs sont en charge du contrôle des déchets toxiques dans tout le pays. La consultante Kristina Cvejanov s'indigne du manque de transparence de l'État serbe sur ce sujet sensible.
Quand on parle de déchets toxiques en Serbie, on constate un très grave problème sur les données. Notamment parce qu'on ne contrôle pas la manière dont elles sont recueillies. Les entreprises sont très rarement inspectées sur les quantités de déchets qu'elles collectent et qu'elles retraitent. Entre 2011 et 2019, par exemple, si on fait le calcul, on remarque que 370 000 tonnes de déchets toxiques sont manquantes. Il est normal de se demander où sont passés tous ces déchets.
Asmed Erevo, l'immense aciérie, le plus grand exportateur de Serbie, a été racheté en 2016 par le groupe chinois HBIS. Depuis, c'est un balai incessant de camions qui déversent chaque jour des résidus de cette activité très polluante sur un site à l'air libre, tout proche du Danube, sans aucun traitement préalable, comme s'en inquiète le militant écologiste Nicolas Krstić.
Nous avons des soupçons fondés sur le fait que ces résidus industriels qui contiennent différents produits chimiques sont potentiellement dangereux pour la santé. D'autant plus qu'ils sont déversés à même le sol, à 100 mètres du Danube, un fleuve qui irrigue toute l'Europe. Nous avons signalé tous ces risques aux autorités, y compris à l'inspection écologique, mais nos appels sont restés sans réponse.
Outre les questions d'état de droit, le respect des normes environnementales est aujourd'hui l'un des principaux points de blocage du processus d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. Malgré de nombreuses aides et programmes d'accompagnement, Belgrade reste très en retard sur le recyclage des déchets, toxiques ou non. Pour le professeur d'ingénierie environnementale Aleksandar Jovovic, les responsabilités sont multiples.
Dans un pays normal, ce n'est pas difficile à mettre en place, mais il y a un vrai manque de confiance vis-à-vis du pouvoir. Les gens ne croient pas les autorités. D'un autre côté, il n'y a jamais vraiment eu de volonté politique pour résoudre cette question jusqu'à présent. Enfin, il y a aussi des raisons techniques, car cela coûterait moins cher aux entreprises de retraiter leurs déchets toxiques en Serbie plutôt que de devoir les exporter vers l'Union européenne.
Faute d'installations disponibles sur place, le seul moyen de retraiter les déchets toxiques produits en Serbie reste en effet de les exporter à un coût prohibitif. En 2018, Belgrade avait promis de consacrer jusqu'à 900 millions d'euros rien que pour les déchets toxiques historiques hérités de la faillite des industries de la Yougoslavie socialiste. Aujourd'hui, la Serbie promet d'être capable de retraiter tous ces déchets dangereux d'ici 2024. Vu l'ampleur du chantier et les retards accumulés, cela risque d'être encore reporté. En attendant, les sols et les rivières du pays continueront d'être pollués et la santé des populations mise en danger.
Le crime organisé s'intéresse à l'environnement. Il y a là des trafics lucratifs, sans grand danger. La lutte contre la criminalité environnementale est devenue une priorité européenne avec la mise en place au sein d'Europol du programme Ambitus, destiné à lutter contre les pollueurs et les trafiquants. Le capitaine David Herrès est à la tête de ce programme, doté d'1,5 million d'euros de budget. Il est l'invité d'Accent d'Europe aujourd'hui. Capitaine, le programme Ambitus a notamment pour mission de lutter contre les exportations de déchets.
Très majoritairement, les déchets circulent d'un pays à un autre. Ces mouvements-là, on les voit en Europe, essentiellement entre l'Europe occidentale et les pays de l'Est de l'Union européenne, Pologne, Roumanie, puis au-delà des frontières de l'Union, en Ukraine, etc. Et aussi vers l'Asie. et là, par le biais des conteneurs.
Capitaine RS, est-ce qu'on peut mesurer la gravité des crimes environnementaux ?
Le crime environnemental n'est pas encore au niveau du trafic de stupéfiants en termes de perception, hein, que ce soit par les services spécialisés de police ou par les citoyens de l'Union européenne. Le danger ne semble pas le même. Cependant, on voit bien que les méthodes utilisées sont les mêmes que dans d'autres types de crimes. Et que ce qui ressort souvent de nos enquêtes, c'est que les groupes criminels organisés investissent à côté d'autres thématiques plus connues sur le crime environnemental, précisément parce que les sanctions sont faibles et que c'est plus rentable aujourd'hui et moins risqué d'investir sur le crime environnemental que sur le trafic de stupéfiants. Pour un trafic de déchets, les peines sont essentiellement des peines d'amende. Vous n'avez pas l'emprisonnement.
Le programme Obitus vise à faire un état des lieux de la menace qui pèse sur l'environnement, mais aussi à assurer une coopération entre services au niveau européen. Il y aura par exemple dans le futur des opérations de contrôle dans les ports d'Anvers ou de Rotterdam, mais la coopération est déjà en place ailleurs.
On a décidé d'intensifier dans un premier temps la coopération avec les Balkans et avec l'Asie. Les renseignements qu'on détenait nous conduisaient à penser qu'il y avait un trafic intense entre l'Union européenne et les Balkans en matière de déchets, et également en direction de l'Asie. Ce qui est particulier avec l'Asie, c'est que on a des trafics de déchets de l'Union européenne vers l'Asie, et on a également des trafics d'espèces protégées, par contre, d'Asie vers l'Europe. Pour ce qui concerne les Balkans, c'est essentiellement sur le trafic de déchets qu'on est engagé.
Obitus, c'est aussi un programme de formation des forces de l'ordre, des magistrats. Il prévoit aussi la mise en place de structures d'enquête organisées. La Slovaquie et la Hongrie, par exemple, s'y intéressent. Mais là encore, on n'en est qu'au début, capitaine RS.
Au sein de l'Union européenne, vous avez trois pays qui disposent de services spécialisés, bien structurés, bien formés, pour lutter contre le crime environnemental. L'Espagne, avec la garde civile. Les Italiens avec les carabiniers et la France avec la gendarmerie nationale au travers de l'OCLESP. Donc l'idée était de mettre à disposition des pays qui le souhaitent au sein de l'Union européenne l'expérience des pays les plus en avance pour faire évoluer leur manière de lutter contre ce type de criminalité.
Le capitaine David RS à la tête du programme Ambitus.
I have something you need, I've got what you want. Let the rest stand in line, I'll get you to the front. I'm your vaccine daddy, I've got the connections.
Vaccine daddy,
to get you your injections.
Vaccine daddy,
I'm gonna treat all your troubles.
Vaccine daddy,
and hey, my doses are doubles. No more nights of isolation, you're gonna dig my big inoculation.
Vaccine.
La bataille des vaccins contre le Covid-19 fait rage. Comment Pascal Soriot, le patron franco-australien d'AstraZeneca, va-t-il s'en sortir ? Lui, qui apparaissait comme un sauveur au début de la pandémie, doit assumer aujourd'hui retard de livraison et effets secondaires de son vaccin. Pascal Soriot, portrait signé Béatrice Leveillé.
2021 nous a apporté la pire crise sanitaire et économique qu'ait connue notre génération. C'est aussi un moment décisif pour AstraZeneca. Nous avons continué à créer de la valeur pour nos patients, nos actionnaires et pour la société. Je n'ai jamais été aussi fier de diriger cette entreprise.
Pascal Soriot joue son avenir et celui d'AstraZeneca, une entreprise suédo-britannique. Vétérinaire de formation, il est né en Picardie il y a 62 ans et vit aujourd'hui en Australie avec sa famille. Le laboratoire qu'il préside est spécialisé dans les médicaments contre le cancer. Il a été un des premiers à produire un vaccin bon marché et simple contre la Covid-19. Mis au point par les chercheurs d'Oxford, il est commercialisé à un prix très bas, jusqu'à 10 fois moins élevé que celui de ses concurrents. Le rêve a tourné au cauchemar à cause des retards de livraison et de rumeurs sur la dangerosité et l'efficacité du vaccin. Le vaccin AstraZeneca, qui a déjà été administré à des millions de personnes, est pourtant un bon vaccin pour les autorités de régulation européenne. A-t-il été victime d'une cabale de la part des dirigeants européens ? Véronique Trier-Lenoir, eurodéputée Renew, membre de la commission santé et cancérologue.
Il n'y a pas une cabale contre AstraZeneca au niveau européen, mais un mécontentement fort qui me paraît justifié par le fait qu'on a maintenant la preuve que ce laboratoire a signé des contrats avec l'Union européenne d'une part et avec le Royaume-Uni d'autre part, en promettant à chacun les mêmes doses potentielles de vaccins. AstraZeneca est un laboratoire important qui produit beaucoup de médicaments en cancérologie, donc que je connais bien. J'avoue que je suis surprise de la manière de faire qui est déloyale, qui est délétère pour tout le monde et probablement surtout pour eux, et qui met tout le monde dans une situation délicate, obligeant l'Union européenne à vérifier ses exportations et du coup risquant de mettre le Royaume-Uni dans la difficulté pour administrer la deuxième dose.
Pascal Soriot est un homme de combat. En 2014, il déjoue une offre publique d'achat hostile de son concurrent américain Pfizer. En pleine pandémie, il vient de racheter l'entreprise pharmaceutique américaine Alexion pour 39 milliards de dollars, mais il n'a pas réussi à convaincre les eurodéputés de sa sincérité. Véronique Trier-Lenoir.
C'est vrai que Pascal Soriot a eu des propos humiliants, il les a eus dans la presse, en expliquant qu'il faisait tous ses petits efforts pour contenter tout le monde. Enfin, bon, un contrat, c'est pas ça. Et puis, il a également été assez arrogant, je dois dire, dans une audition qu'il a faite et à laquelle j'ai assisté au Parlement européen, où il a eu beaucoup de questions et où il n'y a pas répondu, tout en prenant une attitude assez distanciée depuis Sydney, qu'il n'a pas quitté depuis le début de la crise. Et oui, je trouve que c'est quelqu'un qui ne se comporte pas comme un responsable de santé publique. Il est, même si, bien évidemment, son objectif est de faire du business, ce que tout le monde comprend, mais le business, il y a des règles.
La bataille contre la pandémie n'est pas terminée. De nouveaux vaccins arrivent. Celui d'AstraZeneca change de nom, son utilisation est plus encadrée. Et quel que soit son avenir, il aura joué un rôle majeur dans la lutte contre la Covid-19.
C'est la saison des tulipes aux Pays-Bas. En temps normal, à cette période, les champs très colorés du pays attirent des visiteurs du monde entier. Depuis quelques jours, le célèbre parc Coeckenhof, vitrine internationale des horticulteurs néerlandais, est ouvert de nouveau à un nombre très limité de personnes. Après une année catastrophique, le secteur revient de loin. À La Haye, Antoine Mouteau.
Depuis quelques jours, le Coeckenhof est autorisé à accueillir un maximum de 5000 personnes par jour, tous triés sur le volet par les autorités sanitaires. Pour pouvoir rentrer, ils doivent notamment présenter un test négatif au Covid-19. Avant la pandémie, au printemps, le parc situé à Lisse, à mi-chemin entre La Haye et Amsterdam, accueillait chaque jour environ 10 fois plus de visiteurs, venus surtout des États-Unis, d'Allemagne et de France. L'an dernier, interdit d'ouverture, il a enregistré des pertes à hauteur de près de 10 millions d'euros, et selon la direction du parc, la situation ne devrait pas beaucoup s'améliorer cette année. Pour le secteur horticole néerlandais, la fermeture totale jusqu'il y a encore quelques jours du Coeckenhof et de ses 32 hectares de fleurs est un véritable désastre. C'est le meilleur de la récolte du pays qui y est exposé et qui fait d'habitude envie à des acheteurs des quatre coins du monde. Dès mars 2020, les cultivateurs de tulipes ont été, avec les compagnies aériennes et la restauration, l'un des premiers secteurs des Pays-Bas à être durement touché par la crise. La récolte sous serre de l'hiver 2019-2020 a d'abord été victime des premiers confinements dans les pays voisins, très friands d'habitude de fleurs néerlandaises. À la Bourse internationale aux fleurs d'Alsmeer, près d'Amsterdam, les volumes des commandes ont fondu comme neige au soleil, et devant des étagères vides, la majeure partie du personnel a été renvoyée à la maison. Mais depuis, la situation s'est bien améliorée. Au cours des derniers mois, les cultivateurs semblent s'être refait une santé. À la Bourse internationale aux fleurs, les commerçants achètent désormais des tulipes à un prix 60% plus élevé que l'an dernier, au début de la pandémie. Selon les spécialistes, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, confinées chez elles, histoire d'égayer leur quotidien, de nombreuses personnes ont acheté des fleurs. Beaucoup de Néerlandais ont également profité de cette période pour se mettre au jardinage et acheter des bulbes.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.